Bienvenue sur Bouge ton bazar, le podcast qui déblaye tout ton brouillard intérieur. Et bienvenue sur Bouge ton bazar, le podcast qui déblaye ton brouillard intérieur. Alors, je rappelle le concept de l'émission. Si le bazar est à l'origine un marché ou un magasin où l'on vend toutes sortes d'objets et d'ustensiles utiles, le bazar mental, lui, est un fouillis dont on aimerait bien pouvoir se passer. C'est un peu comme ça qu'a germé l'idée de ce podcast. Ouvrir des discussions, des réflexions sur le brouillard mental lié au trauma, partager des expériences et des compréhensions et envisager de nouvelles perspectives pour s'enrichir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Gavaudan, Marseillais,
oui.
Ingénieur du son dans le cinéma, passionné par la musique. Ton parcours de vie est marqué par des tournants majeurs. On va parler de ta vie perso plus que de ta vie professionnelle, si ça te convient. Bien qu'on pourrait parler des heures de ta vie, c'est vrai, hein, cette phrase a été bizarre. Bon, je rappelle un petit peu ta biographie pour les gens qui nous écoutent. Et je vais respirer un peu. Ouais. Alors, on y va. Donc, tes parents étaient psychiatres.
Ouais.
Tu as grandi dans les couloirs de l'hôpital de...
Enfin...
Voilà, non,
Valvert.
À moitié.
Ouais, un petit peu, ouais.
Un petit peu.
Ils étaient internes à Valvert.
Voilà. Donc, tu as quand même grandi...
Ah oui, oui, je connais. Oui. Bah, j'ai passé un peu de temps, ouais.
Voilà. Ça marque un petit peu l'ambiance. Mmh. Au début de ta vie d'adulte, tu décides d'aller aux USA.
Mmh, ouais.
Tu rejoins un groupe de musique.
Aussi.
Et tu te retrouves en contact, donc à cheval, entre les voyous et la bourgeoisie.
Ouais.
C'est comme ça que tu m'as raconté.
Ouais.
Finalement, ça se passe pas comme tu voulais au niveau carrière musicale là-bas. Tu te dis, je vais peut-être revenir à Marseille.
Ah oui.
Tu reviens à Marseille.
Ouais.
Là, t'as quel âge ?
Bon, 21 ans.
Finalement, tu fondes une famille, tu te maries, tu rencontres la femme de tes futurs enfants.
Ouais.
Tu deviens papa.
Yes.
Deux garçons. Mm. Et moi, je te connais, depuis que je te connais, tu vis en fait dans les hauteurs de Vauban. Mm. C'est ton quartier, c'est chez toi. Mm. Quartier familial et chaleureux.
Tout à fait.
Voilà, jusqu'ici, on est bon. Il y a 23 ans ?
Ouais.
Ta mère se fait assassiner par un ancien amant dans la rue d'une vingtaine de coups de couteau. Donc ça déjà c'est hyper violent. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est un des traumas dont on a pu parler ensemble. Mmh. Et plus récemment, t'as perdu ton fils qui s'est suicidé à l'âge de 17 ans.
Non, 18 ans.
J'ai trouvé aucun moyen d'aborder ces sujets avec légèreté, donc c'est pas du tout le but. Et pourtant, ensemble, on a réussi à en parler plusieurs fois. Et j'espère qu'on arrivera à mettre à l'aise nos auditeurs là-dessus. Est-ce que t'as des choses à me dire là-dessus ?
Oui. Déjà, j'ai pas perdu mon fils. Mon fils est mort, mais je l'ai pas perdu. J'ai perdu mes clés, je perds pas mes chaussures, c'est rare, mais je perds mon livre, je perds des choses, mais je perds pas une personne. Les personnes sont libres et elles ne nous appartiennent pas. Il n'y a pas de possession avec les gens. Donc, on ne perd pas son enfant. Son enfant, on le rend à la nature, mais on ne le perd pas. Il repart. La mort, ça fait partie de la vie, quoi. C'est parce qu'on vit qu'on meurt. Sinon, il y a un chemin. Voilà. Après, il faut l'accepter, pas l'accepter, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on ne perd pas parce qu'il n'y a pas de possessivité avec les gens. Quand on dit, bon, j'ai perdu ma mère. Non, j'ai pas perdu ma mère. Elle est repartie dans la terre, quoi. Voilà. C'est quoi cette possession est gênante. Voilà, ça voudrait dire qu'on a une emprise et ça voudrait dire aussi que c'est quelque chose d'assez égoïste, finalement, la mort. Mm. Donc ça me pose problème de dire perdre. Voilà, c'est pas un mot. Et puis en plus, fondamentalement, il s'est pas perdu.
Ouais.
Et d'une. Et je ne l'ai pas perdu. Mm. Parce qu'il est toujours là, au fond, mon âme. Voilà.
Bien sûr.
Et après, bon, on en parlera peut-être après, mais c'est la question de savoir que deviennent les personnes après leur mort.
Ouais.
Il n'y a plus le corps, on considère qu'il n'y a plus l'esprit, mais si on considère que l'âme reste,
ouais.
Qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, voilà.
Complètement.
Et où elle est, voilà. Et où on la met, où on la positionne, c'est ça qui est, ouais. Rigolo, enfin, qui est intéressant, quoi. Voilà.
Ça me rappelle voilà. La première fois qu'on s'est rencontrés, on avait mangé au resto italien, là. Et on avait parlé de ça.
Ah oui.
Pendant 2 heures, les gens, ils étaient complètement hallucinés, parce qu'on n'avait aucune gêne.
Bah oui.
Parler de tout ça et c'est vrai que c'est arrivé très vite dans nos échanges de parler de la mort et j'ai trouvé qu'on était très à l'aise pour parler de ça.
Oui parce que moi je suis assez à l'aise avec parce que c'est compliqué dans ma vie perso de tous les jours de rencontrer des gens et me dire alors tu as combien d'enfants? Ben j'en ai 2. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben il y en a un qui allait en terminer, enfin qui est à l'école, et puis mais il y en a un qui est mort. Et là les gens paf, ils disent je suis désolé. Je dis, non, mais ne t'excuse pas, il n'y a pas à t'excuser, il est mort, mais je ne vais pas te mentir. Enfin, je suis obligé de dire les choses comme elles sont, quoi. D'être assez franc avec la vie, quoi. Voilà. Donc, la mort fait partie de la vie. On en parle parce que c'est quelque chose de normal. Mais nous, aujourd'hui, enfin, moi je l'ai subi, donc je sais de quoi je parle. C'est très compliqué la mort pour les gens. C'est plus une peur, c'est plus un problème que quelque chose de naturel.
Oui, donc c'est pour ça que je te dis, entre nous, on en a parlé assez simplement, mais ça ne doit pas arriver tout le temps, quoi.
Ah non, les gens sont hyper gênés quand je leur dis « Ah ben mon fils est mort », ils me disent « Ah mais regarde, mais c'est... » Alors ce qu'on me dit tout le temps, c'est la pire des choses.
Oui.
Les gens, ils disent « Ah ben là, tu as vécu la pire des choses ». Bon, ce n'est pas la pire des choses. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une chose horrible. Ce n'est pas ça, mais on ne peut pas classifier les choses dans leur horreur. Et dans leur tragédie.
Non, il n'y a pas de classement. Voilà.
Parfois, il y a des petites choses. Il y a des grands malheurs. Bon, ben, vous les traversez. Puis, il y a des petits malheurs. Et ils vous anéantissent.
C'est vrai.
Donc, quelle gradation on va faire dans le malheur, le bonheur? Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai vu des gens se faire renverser par un petit truc tout minuscule, quoi. Un petit problème. Voilà. Alors, il suffit de voir comment on peut mettre, dans quel état peut mettre un accident de voiture entre 2 personnes. Ça rend fou.
La voiture, non, mais la voiture, c'est particulier.
Mais
la voiture, c'est très particulier.
Pas grave.
Très particulier.
Où est la gravité dans un accident de voiture?
Non, mais tu l'as très bien dit dès le départ, c'est-à-dire qu'on a tendance à se projeter dans les objets, dans les relations. Et donc, la voiture, c'est une espèce de prolongement de soi, un prolongement de sa maison, de son territoire.
Ouais, de et sa donc, propriété.
Voilà.
Attention à la propriété, voilà. La notion de propriété.
La notion de propriété dans notre monde, dans notre société.
Voilà.
Quand même, c'est quelque chose qu'on cultive très tôt.
Tout à fait. Et chez nous, aujourd'hui, la dictature de nos ressentis.
Ouais.
C'est-à-dire, on ne raisonne pas, on ressent. Bon, les politiciens aussi, ils ressentent. Hein,
ouais, les politiciens, voilà. C'est parce qu'ils manipulent. Et
oui,
donc,
mais là,
ils nous apprennent
c'est que du ressenti. C'est-à-dire, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de raison.
C'est voilà. Le problème.
Mais on en parlera après.
Non, ouais, c'était pas prévu.
Ouais. Ah, si.
Tu veux parler politique?
Non.
Ouais, voilà. Non, je voudrais revenir juste 2 secondes sur ton prénom, parce que j'aime bien t'appeler Maximus. Et en fait, j'aime bien parce que dès le départ, tu vois, t'as posé le cadre en remettant un petit peu le contexte de la... Bah, tu viens avec toute une sagesse, une philosophie, des piliers, des profondeurs, des regards qui sont, originaux et qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre, même si on sait que ça existe depuis longtemps, parce qu'on va aborder la sagesse, le stoïcisme, les Grecs, etc. On sait que ça existe depuis longtemps, mais toi, tu le remets au goût du jour dans ta vie au quotidien. Donc ça, c'est quand même très agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est très agréable. Et je suis allée voir quand même ce que voulait dire ton prénom. Parce que c'est latin.
Et oui.
Et ouais. Et tu savais. Donc
bah oui.
Ouais, tu le portes bien.
Non.
Non. Bah moi, je trouve que tu le portes bien parce que ça veut dire très grand.
Oui, bon, je ne suis pas grand. Physiquement.
Bah, t'en sais rien. Mais non, pas physiquement.
Oui, j'ai compris.
Et ce qui était drôle, c'est que, donc, je suis allée voir, Maxime, c'était un citoyen romain chargé de l'exécution de Saint Valérien et Saint Tiburce, accusé de christianisme. Donc, déjà, il y avait un petit conflit entre les Romains et le christianisme. Et ces prisonniers le convertirent cependant à leur foi. Il finit par subir le martyr à leur côté. C'est pourquoi le 14 avril est devenu la fête des communes des Maximes. On s'en fiche. Mais Maximus, signifiant le plus grand, était également le titre honorifique décerné aux généraux romains victorieux. Donc, tu as quand même ce truc de à la fois le côté romain victoire et à la fois le côté le plus grand. Et je trouve que ça va bien aussi avec la sagesse. Que tu essayes d'incarner.
Chrétien.
Et le côté chrétien. Tout à fait.
Tout à fait.
Oui, j'aime bien cette petite parenthèse.
Ce qui est marrant, c'est la conversion.
Entre eux.
De Maximus.
Ah, bah c'est voilà, t'avais un truc à nous dire.
Oui. Non, mais enfin, oui.
Je savais.
Non, mais la conversion, c'est important.
Qu'il a fait.
Ouais.
Et il est devenu martyr.
Ouais.
Et tu savais qu'à Marseille, les martyrs chrétiens ont une grande histoire à Marseille.
Tout à fait. Saint-Défendant.
Ouais.
Là où l'église qui est à la Caplette. Voilà. Saint-Défendant était un martyr. C'était un légionnaire romain à qui on a demandé de tuer des chrétiens et qui a refusé et qui a été exécuté.
C'est génial. Quand tu t'intéresses
et donc,
un peu
en fait,
à l'histoire.
Voilà, il y a beaucoup de. Enfin, Marseille est. D'abord, Marseille est une ville très catholique. Chrétienne, ouais. Donc catholique et protestante, et beaucoup plus qu'on ne le pense.
Ouais.
Voilà.
Surtout et à Vauban.
Ouais, bon, c'est pas le terreau le plus fertile.
Moi, je trouve quand même que c'est.
Oui, ça existe, hein, voilà. Mais.
Après, c'était. Bon, moi, en faisant mes petites visites guidées là en Touctou, je sais que j'ai appris pas mal de trucs par rapport à Marie-Madeleine, l'abbaye Saint-Victor, construite sur l'église Saint-Victor, avec les martyrs chrétiens, les navettes. Enfin, il y a quand même. Toute une histoire. Il y a le pèlerinage de Marie-Madeleine qui est passé par Marseille.
Tout à fait.
Il y a toute une histoire sur les chrétiens et Marseille. Donc tout ça, bon, on a fait une petite boucle. Revenons à nos moutons sur le latin. C'est pour ça que je voulais faire une petite aparté sur ton prénom. Tu m'as parlé très rapidement de Cicéron.
Oui.
Et tu m'as dit, va lire les Tusculanes.
Tout à fait.
Bon, moi, j'ai commencé à me dire, ouais, dans quoi je vais m'embarquer Et j'ai été louée, enfin...
prendre les Tusculanes à la bibliothèque.
Ouais. Bon, déjà, tout ça, c'était une histoire, parce qu'ils ont pas, ils les ont pas en rayon, ils les ont en réserve. Mmh. Et ensuite, dans le livre, en fait, il y a une page écrite en français et une autre page en latin. Mmh. Tu vois, c'est déjà un univers. Mmh. Je veux dire, c'est pas tous les jours que tu loues un livre écrit en latin. Mmh. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que Cicéron, il parle de sagesse grecque, et c'est écrit en latin. Ça m'a un peu perdu aussi. Et après, on a discuté. Au fur et à mesure de ma lecture, on a discuté. Il m'a dit, ah ouais, mais si tu lis ça, ça va faire ça, tout ça. Et j'aimerais bien reparler un petit peu de tout ça. Alors, je peux expliquer un peu le contexte de son œuvre, les Tusculanes. Ouais. On y va. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Cicéron a écrit son œuvre, les Tusculanes. Donc, nous sommes à Tusculum. Tusculum. Au début de l'été 45, Cicéron, profondément affecté par la mort récente de sa fille bien-aimée Tullia et écarté de la vie politique par la dictature de César, trouve refuge dans son Tusculanum. Face à cette double épreuve, faut pas rigoler. Face à cette double épreuve, l'ancien consul se consacre jour et nuit à la rédaction d'une œuvre philosophique en latin destinée à l'éducation de la jeunesse romaine. Ce brillant orateur, un temps surnommé père de la patrie, est aussi un philosophe, disciple de Platon et de la Nouvelle Académie. Dans ses dialogues, il examine et confronte les thèses des philosophes hellénistiques, Zénon, Épicure, donc il critique beaucoup quand même, sur les questions fondamentales de l'existence, le monde, les dieux, la connaissance, la morale et le bonheur. Les deux protagonistes de ce dialogue sont Cicéron lui-même dans le rôle du professeur et un jeune homme dont l'identité reste inconnue. C'est surtout pour je pense, la structure et la forme. Dans ce texte, donc, Cicéron cherche à convaincre son interlocuteur et ses auditeurs, à travers eux, tous ses lecteurs, que la pratique de la philosophie mène au bonheur. Donc, pour développer sa pensée, il procède par étapes. Donc, dans les deux premiers entretiens, il démontre que ni la mort ni la douleur ne sont vraiment à craindre pour le sage. Dans le troisième, il soutient que la philosophie peut guérir le chagrin. Et le quatrième prouve que le sage reste imperméable aux passions. Ces étapes mènent à la conclusion du livre, donc le 5, le livre 5, « La vertu ou la beauté morale ». Suffit au bonheur. C'est tout un programme, quoi. Déjà, tout ça, si on arrive à le lire en une vie, on est. Je veux dire. C'est. Pff. Moi, j'ai commencé par le livre numéro 3.
La médecine de l'âme.
Ouais.
Bon, c'est le livre le plus psychiatrique.
Et ben, je l'ai avec moi d'ailleurs. Je lirai un passage
parce
tout à l'heure.
C'est un livre thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel il se confronte et il questionne la question de la mort et de la normalité de la mort et surtout de l'affliction, c'est-à-dire du chagrin. Ce qu'ils appellent eux l'affliction, dans la traduction latine, c'est ce grand chagrin qui vous terrasse.
Ouais. Voilà.
C'est-à-dire que c'est quelque chose de très fort, de très annihilant, qui empêche, je dirais, la pensée et qui obnubile. Du coup, Cicéron se pose la question de savoir pourquoi il est triste. Est-ce qu'il est triste parce que sa fille ne va pas vivre le futur qu'elle devait vivre? Donc là, il ne peut pas être triste puisque c'est pas lui, c'est pas sa fille. Voilà. Est-ce qu'il est triste parce qu'elle ne va pas vivre des moments de bonheur avec lui? Ça, oui. Ou est-ce qu'il est triste parce que elle, c'est un bonheur que du coup, elle va complètement rater, mais lui, il est là, il n'est pas mort. Il n'a pas de raison d'être triste. Lui, finalement, la mort de sa fille, c'est quelque chose d'assez, il se dit, c'est quelque chose d'assez égoïste pour moi.
Parce que lui reste.
Parce que lui reste. Et puis surtout que c'est elle qui ne vit pas des moments de bonheur. Donc, il peut être triste pour elle de ce qu'elle ne va pas vivre. Mais il se dit, j'ai pas de raison d'être triste, moi.
Ouais.
À part, bien sûr, ce manque, cette tristesse. Mais d'où vient-elle?
Pourquoi? Oui, le manque de l'autre.
Voilà, mais d'où vient-elle? Mais c'est quelque chose, le manque de l'autre, c'est aussi quelque chose d'égoïste. C'est aussi par rapport à soi. Donc, finalement, il pose la question du fait que la mort, on peut l'analyser comme quelque chose d'assez égoïste.
Oui, mais c'est pas parce que c'est égoïste que ça fait moins mal.
J'ai pas dit que ça faisait moins mal. Je dis juste que finalement, oui, c'est quelque chose qu'on ramène à soi.
Bien sûr.
Et pas à l'entièreté de la nature et à la société tout entière. Mm. Voilà. Tout ça, en fait, pour dire que il y a aussi le problème de la douleur, parce que elle est plus là. D'accord. Donc, si son âme a survécu à son corps et à son esprit, est-ce que son âme souffre? Non. L'âme ne souffre pas parce que les douleurs du corps ne sont plus là. Si son âme n'a pas survécu, eh ben elle ne souffre pas non plus. Donc sa fille ne souffre plus. Donc il n'y a plus de souffrance. Donc c'est la question de, voilà, mon fils est mort, mais je sais qu'il ne souffre plus de douleurs, de trucs comme ça. Donc, il y a comme un souci que je ne me fais pas pour lui.
Ouais.
Alors je suis triste qu'il n'ait pas continué à vivre sa vie de jeune garçon et d'avoir du bonheur, et ça a rendu très triste tous ses amis, tout ça, sa famille, tout ça. Mais en tout cas, il n'y a plus de souffrance.
Oui.
Voilà. Et on ne peut pas être triste de sa souffrance parce que non, il n'y en a pas. Voilà.
On est d'accord que c'est de ce point de vue-là, quand il parle Cicéron de ça, il emploie le mot sage, le sage. Il parle beaucoup de ça. Il dit que finalement. Là, c'est ce qu'il dit. Il dit ni la mort ni la douleur ne sont vraiment à craindre pour le sage.
Tout à fait.
Et c'est ça que j'essayais de pointer du doigt. C'est-à-dire qu'on est un peu dans cet apprentissage de comment devenir un sage quand on lit ses livres, son livre, son ouvrage.
Oui, et puis surtout, en fait, dans la philosophie stoïcienne, bon, Cicéron, il y en a qui disent que ce n'est pas un stoïcien, il y en a qui disent que c'est un des premiers stoïciens, enfin, pas un des premiers, mais qu'il a fait une continuation du stoïcisme. Bon, moi, personnellement, je trouve que dans ce livre, il est très stoïcien. Bon, ça, c'est moi. D'autres ne le pensent pas. Mais en même temps, là, quand ils ont édité Les Stoïciens dans la Pléiade, Cicéron y est cité plusieurs fois. Voilà. Bah, donc, oui, ouais. C'est compliqué. Bon, ça, c'est un dialogue de
puristes.
De puristes, voilà. Non, Cicéron, ce qu'il fait, c'est qu'il remet la personne... dans une forme de sagesse en disant voilà, perdre un enfant, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui arrive.
Ouais.
C'est quelque chose qui arrive parce qu'en fait, on n'est pas éternel et eh bien, il y a des gens qui meurent parfois, et puis parfois c'est les enfants, et puis parfois il n'y a pas d'ordre. Voilà.
C'est
et c'est ce qu'il appelle les assauts du chagrin et de la maladie finalement. Voilà. Beaucoup d'entre nous sont obligés d'inhumer leurs enfants et. Mais bon, à la fin, c'est ce qui guette tous les êtres vivants. Donc, à la fin, il faut rendre à la terre ce qui appartient à la terre et on retourne vers la terre. Quoi.
Voilà. Bien sûr.
Et cette sagesse-là, c'est une sagesse stoïcienne. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous.
Ouais.
La mort des gens, parfois, ne dépend pas de nous. Ah et on ne peut pas s'affliger de choses qui ne dépendent pas de nous.
Bah, on peut, mais c'est vain.
Bah, oui, parce que ça ne dépend pas de nous. Je veux dire, si demain matin, un type marche et puis il se prend, un balcon sur la tête, ben, c'est pas de sa faute. Ça dépend pas de lui. C'est comme ça. Il y a quelque chose dans la sagesse stoïcienne de ça arrive, puis c'est tout.
Ouais.
Et puis il n'y a pas à s'affliger parce que finalement, ça s'est passé comme ça. Voilà.
Ouais, mais est-ce qu'on peut dire que n'importe qui peut devenir sage ?
Non. Enfin, d'une certaine façon,
si,
oui.
Dans l'absolu.
Mais oui, parce qu'en fait, dans l'absolu, tu te dis, bon, ben voilà, ça dépend pas de moi, j'y suis pour rien, je veux dire, je vais pas me flageller parce qu'il y a ça, quoi.
Bah, il y en a qui se flagellent, hein.
Oui, après, il y a...
Il y en a, non, ils font ce choix-là. Non, mais, non, mais c'est intéressant mais d'en parler
après,
parce
c'est
que
pour
c'est
moi,
presque un choix.
Tout à fait.
D'abord, c'est presque un choix.
C'est un choix.
Peut-être
mais
inconscient,
c'est...
parfois.
Oui, puis après, il y a aussi une culture de la,
voilà,
du chagrin. On
c'est
cultive
ça,
le chagrin.
Truc un peu mélodrame. Enfin, moi,
oui,
j'ai été élevée là-dedans.
Oui, il y a une
j'ai
culture
ma mère qui
écoutait
chagrin. L'opéra,
oui.
Tu vois.
Non, ça,
Edith
bien
Piaf.
Sûr, bien sûr.
On est complètement là-dedans. C'est très français.
Cicéron dit à un moment donné, « Le malheur qui semble a priori dépasser tous les autres n'est jamais assez grand pour ruiner le bonheur. »
Oui.
Voilà, c'est tout. À un moment donné, ça dépend de la posture que tu prends.
Voilà.
Oui, la posture, c'est comment tu vas te positionner vis-à-vis d'un fait. Voilà.
C'est ça.
Et lui, il prend des positions. Il se place à un certain niveau. Et puis, il réfléchit sur lui-même. Il dit, voilà, pourquoi ? Pourquoi je suis mal ? Pourquoi je me sens pas bien ?
Oui, mais donc il prend aussi cette responsabilité.
Ah bah oui.
Il se positionne, comme tu dis, comme responsable de son bonheur, de son malheur.
Tout à fait.
Et il dit, ok, bah le, en fait, on en revient un peu à cette idée que le bonheur, c'est un choix.
Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les stoïciens travaillent sur la représentation des choses.
Oui, oui.
C'est-à-dire que comment
les
on
idées,
se représente le
monde des idées.
Et voilà. Et surtout, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que on peut voir un certain fait d'une certaine façon, et puis on peut l'analyser d'une autre. Et à partir de là, c'est Épictète qui a développé ça, et après Marc Aurèle le fera de manière encore plus grande et assez fantastique, c'est comment on se représente les choses qui nous arrivent. Si quelqu'un a une critique sur toi et qui te critique,
ouais.
Et alors ? C'est son opinion.
Ouais.
Tu veux faire changer son opinion. Mais pourquoi son opinion te touche ?
Parce que tu lui accordes de l'importance.
Mais pourquoi ?
Ouais.
Mais parce que tu lui accordes. Mais c'est son opinion. Ouais. Ça reste que son opinion et ça ne concerne que lui.
Oui, c'est un peu la petite histoire que tu te racontes, quoi.
Oui, mais si son opinion te touche, c'est que toi, tu te positionnes mal. C'est que ta position n'est pas bonne.
En tout cas, tu te positionnes de façon à donner un certain pouvoir à l'autre.
C'est même pas un pouvoir, c'est surtout, je veux dire, une importance.
Ouais,
une importance qui peut-être il n'a pas.
Oui, mais quand tu intègres en fait ce que pensent les gens de toi, c'est une forme de pouvoir que tu cèdes. C'est-à-dire que au lieu de dire, bah, en fait, moi, peu importe ce qu'on pense de moi, je sais qui je suis, je connais ma valeur.
Bah oui.
Tu remets
c'est ça
que
pense le stoïcien.
Et voilà.
Oui.
Ça revient beaucoup, hein, beaucoup à la mode.
Oui, mais ça, c'est, chez les stoïciens, ça s'appelle la vertu. La vertu, c'est la mesure, la rectitude, voilà, le courage et la volonté.
Ouais, ça, voilà,
c'est
me plaît,
ces quatre
ça.
Notions. Mais donc, ça veut dire quoi ? Si quelqu'un te critique, tu sais que tu as été droit, bah, tu t'en fous.
C'est ça.
Ça te glisse dessus.
Ouais.
Et de toute façon, la critique s'arrête après. Parce que si elle n'a pas d'impact,
bien sûr,
c'est rare. Tu vois, Cicéron va être critiqué. Il n'était pas du parti de César. Ce qui va lui coûter la vie d'ailleurs,
ouais.
Voilà, parce qu'il va être assassiné, décapité même. Sa tête va être ramenée à Rome. Voilà, mais bon, finalement, voilà, c'est tout. On le critique, mais c'est pas, voilà, on le critique.
Mais tu vois, je trouve qu'il y a un lien, un espèce de lien entre ce qui se passe, si tu veux, psychiquement, émotionnellement. C'est-à-dire quand tu laisses justement, quand tu es absorbé par tes émotions, quand tu te laisses... impacté par tes émotions et quand tu te laisses impacter par ce que pensent les autres. Et quand tu parles de vertu, moi j'aurais pas mis ce terme-là, tu vois, j'aurais pas représenté ça comme ça, mais c'est une expérience totalement individuelle et c'est intéressant de se confronter un petit peu les uns les autres. Mais tu vois, je pense à, par exemple, on en avait parlé un petit peu de comment on gère les émotions et tu m'avais parlé de l'EMDR par exemple.
Oui.
Et tu m'avais dit que ça t'avait beaucoup beaucoup aidé.
Tout à fait.
Et ben, je trouve que l'EMDR, ça pourrait correspondre d'un point de vue thérapeutique à ce que tu décris dans les vertus. L'effet que va faire l'EMDR, c'est un peu l'effet que de se dire « Non, je ne me laisse pas impacter par mes émotions, je ne me laisse pas impacter par ce que pensent les autres, je sais, je connais ma valeur.
Ouais. »
Et d'être fort, en fait, d'avoir cette force intérieure. Une force qu'on cultive plus ou moins, tu vois. Et quand il y a un événement qui vient troubler ta structure intérieure, bah c'est là qu'il y a des fissures et c'est là que tu peux des fois te faire emporter, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, très récemment, enfin, les émotions, ça a été apparemment, j'ai, grâce à ma psychologue de MDR, justement, j'ai su, c'était Paul Ekman qui les a mis, les 6 émotions. La joie, tristesse, le dégoût, la colère.
Comment t'écris, Paul?
Ekman, E-K-M-A-N.
Ok.
Bon, bref, il m'en manque quelques-unes. Voilà.
La tristesse, la colère.
Le dégoût, la joie, la surprise, la peur. Voilà.
La peur, ouais.
Voilà. Donc, ces 6 émotions-là, voilà. Qu'est-ce qui fait que nos émotions prennent le pas sur notre raison? Mais voilà, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait plus appel à nos émotions qu'à notre raison? Je veux dire, quand tu, par exemple, quand tu es en colère, est-ce que tu vas te laisser dépasser par ton émotion de la colère ou tu vas te dire, bon, entendons raison, ne nous énervons pas?
C'est parce que c'est plus facile.
Bah, pas forcément.
Ça demande moins d'effort de se laisser aller.
Oui, oui. Bah, enfin, ça.
Non.
Je sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas répondre à ça.
J'aurais dit ça comme ça.
Voilà. Moi, je pense que ça dépend des gens. Voilà. Mais en fait, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait des peuples qui ne connaissaient pas la colère.
Oui, ou que c'est mal vu. Voilà. Jusqu'à Madagascar, c'est très très mal vu.
Et donc, en fait, c'est-à-dire que si on n'enseigne pas cette émotion-là, on la cultive pas.
Eh ouais. Oui.
Donc, ça veut dire que si on ne la cultive pas, on n'est pas en colère.
Donc, c'est culturel.
Wow. Les émotions, c'est quelque chose qu'on... Sûrement, hein, je ne suis pas
spécialiste. C'est ce que je te disais
mais
tout à l'heure.
Mais il faut lire Vinciane Desprez là-dessus, qui traite de ce sujet-là de manière assez... Enfin, moi, je trouve ça c'est super. Enfin, c'est d'un bon niveau. Hein. C'est ouf. Voilà.
Comment
mais,
ça s'écrit?
Vinciane Desprez. C'est une autrice.
Desprez.
Elle vient à Marseille d'ailleurs cet hiver, l'hiver prochain, pour faire des stages sur le corps et tout ça.
Ah, trop bien.
Ouais. Et en fait, elle, est, voilà, elle décrit assez bien les choses. Aujourd'hui, on se laisse submerger par nos émotions.
Voilà.
On n'écoute que nos émotions. On est là, on est dans un état émotionnel. Quand on regarde des réseaux sociaux, Instagram, on n'est que dans l'émotion.
Complètement.
Et on regarde les émotions de plaisir, de joie, de dégoût, de tristesse. Et on s'amuse, et puis ça passe comme ça. Mais bon, du coup, où est le rôle de la raison? La raison stoïcienne, celle de Cicéron, celle de Marc Aurèle. Qu'est-ce qu'on fait de notre raison? Comment on la gère? Comment on la place par rapport à tout ça? Parce que si on agit selon la raison, on agit selon le bien. Voilà, selon la vertu, avec mesure, rectitude, voilà.
Des valeurs.
Parfois, des valeurs et puis la valeur de volonté, de courage.
C'est pas très à la mode.
Je trouve que... Oui, on dit que les valeurs de l'argent et tout ça, et de l'hédonisme ont remplacé les valeurs de la vertu et du courage. Mais bon, je pense que les jeunes, ils sont pas... Moi, je suis pas du tout défaitiste.
Ah non, mais je ne suis pas défaitiste.
Non, mais même, je ne pense pas que... Moi, je pense sincèrement que les choses ne changent pas. Qu'il n'y a rien qui change.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2000...
Oui, que ça ne va pas s'empirer, que ça ne va pas s'améliorer. C'est un espèce de statu quo.
Non, ça tourne, c'est toujours pareil. Ça revient. C'est des cycles. Okay. C'est toujours pareil.
Ouais.
On arrive à des cycles. Bon, hop, on refait...
Bah, bien sûr.
Je veux dire,
le cycle, c'est la vie.
Quand on étudie les temps romains,
ouais.
Je ne vois pas en quoi on était... supérieur aux Romains.
Aujourd'hui?
Ouais.
Ah, mais pas du tout.
Je vois pas en
même,
quoi, dans l'éducation, dans les trucs...
On a perdu, je trouve.
Ben oui. On est moins bien éduqués. Hein. Enfin, je veux dire, en fait, non. Nous, on se croit toujours supérieur.
Mais parce que ça, c'est à l'école, on nous apprend que le passé, on a une vision erronée du passé.
Comme si nous, on était les bons, la nouvelle génération,
oui.
Les meilleurs.
Comme si on était en couleur, en vivant.
Et tout le reste, ce qui était avant, c'était des paysans. En fait, c'était un peu des...
C'est grave, des beaufs.
Voilà, des gros beaufs.
Ils ont rien compris.
Au Moyen-Âge, c'était des abrutis complets.
Complètement.
Il y a un truc, d'ailleurs, qui est très rigolo chez... qui s'appelle Chesterton, qui disait pourquoi on dit les hommes primitifs, les premiers hommes, tout ça. Mais quand on voit les peintures rupestres, ça c'était leur musée. Ils avaient déjà créé des musées.
Ouais.
Dans un livre sur la musique, sur l'histoire de la musicologie, de la musique, il raconte que donc chez les hommes préhistoriques, ils allaient dans certaines grottes parce qu'elles avaient des résonances particulières pour faire des chants. Donc en fait, ils étaient déjà dans la musique, ils étaient déjà dans la peinture, ils faisaient déjà des musées, et nous on se prend pour des
mais
sortes
complètement,
de...
comme si on avait inventé la roue.
L'eau chaude même.
Ouais, c'est
voilà,
vrai.
Donc c'est un peu ridicule, je pense. Voilà, je suis pas du tout d'accord pour dire qu'on est meilleur que les autres, on est juste pareil en fait.
Non, mais je suis...
Et on refait la même chose que ce que les autres ont fait.
Oui.
Avec des outils différents.
Mais ça c'est Einstein qui disait rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.
Oui, et encore, la transformation, elle est rotative, hein, c'est-à-dire que ça revient à zéro, quoi.
Oui, bah, c'est ça, en fait. Deuxième partie de l'émission, je voulais parler de l'autre sujet qui revient souvent dans nos discussions, l'amour.
Oula.
Ça va me permettre de, après d'enchaîner sur les deux prochains épisodes qu'on va faire. On va faire un spécial love.
Ah oui.
Et j'avais trouvé intéressant de parler dans, c'était dans ta cuisine, on avait parlé de des patterns dans les relations amoureuses. Tu te souviens ?
Ouais.
Et on avait dit... Alors, je vais essayer de reformuler. On était d'accord sur l'idée qu'en fait, on est tous en train de reproduire constamment des schémas. Et qu'en fait, le piège, c'était de chercher à résoudre ce qu'on n'a pas pu résoudre pendant l'enfance. Parce que malheureusement, ces schémas, ils ont été construits dans la majorité des cas. Ces schémas sont liés aux figures parentales.
Mmh.
Et aux liens qu'on a pu construire à ces figures. Donc, mmh. au sein de la famille.
Mmh.
Là-dessus, on est OK.
Mmh.
C'est un peu une vision commune qu'on a. Et ce qui nous intéresse... c'est de se dire, OK, comment on fait pour dépasser ces emprisonnements, parce que c'est comme une espèce de boucle qui revient inlassablement, mentale et émotionnelle, et qui, a priori, prend source dans l'inconscient. Et en même temps, c'est un mécanisme naturel, parce que ça nous pousse à revivre les mêmes situations encore et encore. D'ailleurs, on en a parlé aussi avec Aurélien. Les mêmes situations encore et encore, et jusqu'à ce qu'on puisse les dépasser. Et le truc, ce serait d'avoir une attitude neutre et... C'est là où je trouve que c'est intéressant aussi d'aller puiser dans les philosophies grecques et dans la psychologie, dans la psychiatrie, dans toutes sortes d'études scientifiques. Et moi, j'étais arrivée avec cette idée, mais c'est marrant parce qu'au début, on n'était pas d'accord. Et je te disais, mais si, mais en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est lâcher prise, se dire, OK, bah, en fait, j'arriverai pas à résoudre ce que j'essaye à résoudre. Donc, essayer de trouver un espèce de compromis avec soi-même en disant, bon, en fait, il faut que tu pardonnes à ton père, à ta mère, en fonction de qui, quel est le nœud. Parce qu'encore faut-il avoir conscience de ces schémas et de se poser et de se dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de rejouer ? À chaque fois, je rejoue la même chose. Donc, il faut aller creuser, il faut se poser, il faut être honnête avec soi-même. Donc, ça demande quand même un travail intérieur intense. Je veux dire, c'est pas facile de se regarder face à face. Donc là, c'est une étape importante du process. Et puis de se dire aussi, OK, une fois que j'ai compris, une fois que j'ai vu à l'œuvre ce schéma dans la vie, en action, comment je fais pour le dépasser ? Et je t'avais dit, mais en fait, le truc, c'est pour sortir de là, il faut l'accepter et finalement accepter qu'on ne le résoudra pas et qu'il y a un lâcher-prise à faire et une espèce de pardon. Et finalement, de faire la paix en fait avec un passé qui reste dans le passé en fait.
Tout à fait. Il y a le prêtre de Saint-Effendant, Père Xavier, qui dit le pardon est trésor de joie.
Pardon est trésor de joie.
Donc ça veut dire que si tu pardonnes à tout ce qui t'entoure ou si tu t'enlèves la colère, finalement tu es heureux quoi. Mm. Il faut le voir comme quelque chose de positif. Et puis c'est vrai, je veux dire que quand tu restes avec ta colère au fond de toi, tu fais rien, quoi. Tu n'avances pas.
Mm. Bah si, tu te rends malade.
Non, oui, tu te rends malade, mais tu n'avances pas. Parce que quand tu te rends malade, tu n'avances pas.
Ah bah non, tu n'avances pas.
C'est comme par exemple par rapport à l'homicide qu'a subi ma maman.
Ouais.
Voilà, c'était en 2002. Il y a deux choses. Il y a la mort et la façon dont elle est morte.
Ouais.
La mort, qu'elle ait eu une maladie ou qu'elle soit morte, assassinée, enfin tuée, c'est pareil, elle n'est plus là.
Mm.
Donc, je vais vivre sans elle. D'accord ? Donc, elle ne sera plus là, physiquement. Ouais. Et voilà. Et ensuite, sur la façon dont elle est morte, ben ça, j'ai envie de dire, si je garde que la colère, je ne m'en sors pas.
Ouais.
Je ne m'en sors jamais, en fait.
Bah, y a une partie de toi toujours en conflit. Toujours,
oui, et puis la colère amène la colère, la vengeance, on va où ? C'est à la société à gérer ça. C'est très bien fait d'ailleurs. Et du coup, c'est la société qui prend en charge cette colère.
Et dans le meilleur des cas.
Oui. Et ce qu'on dit souvent, qui est totalement faux, c'est le procès aide à faire le deuil. Ça, c'est faux. Le procès ne fait pas le deuil. Le procès, c'est le procès, c'est la punition de la société à laquelle on appartient. Et moi, j'appartiens à la société, donc j'étais partie civile. C'est tout. Le deuil, on le fait en parallèle. Ça n'a rien à voir.
Ce qui est en lien, c'est la charge.
Oui, mais on relie la vengeance, la colère.
Non, c'est la
colère.
Je parle de la charge émotionnelle.
Ouais.
Je dis ça Parce que je compare à ce que je peux comparer, c'est-à-dire ma situation personnelle. Et moi, pour le coup, c'est pas un deuil, enfin c'est pas une mort, mais c'est plutôt ce que j'ai vécu quand j'étais petite, c'est-à-dire un abus sexuel qui n'a jamais été reconnu et j'ai jamais porté plainte. Et la personne en l'occurrence est toujours en train de faire je sais pas quoi. Et c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué de faire un deuil quand il n'y a pas eu cette reconnaissance publique. Alors tu dis. Ça fait pas le deuil, je suis d'accord.
Eh oui.
C'est pas, ça fait pas le boulot.
Ouais, mais faut pas mélanger. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas mélanger parce que si on mélange, en fait, rien n'avance et tout restera toujours bloqué.
Je pense que ça
aide. Comme tout à l'heure, tu parlais donc des relations amoureuses. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on attrape les choses par un bout et on les sort par l'autre. Donc en fait, on tourne en rond. Donc on n'en sort pas.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Donc si tu veux, on règle pas le problème.
Bah, on le crée.
Ben, on le crée. En fait, c'est comme sur une roue.
C'est ça.
On le fait tourner.
Ouais.
Un coup, on est comme ça, un coup, on est comme ça, mais on ne le règle pas.
Ouais.
Je veux dire, à l'instant même où tu te débarrasses d'une forme de colère et tout ça, c'est le moment où tu deviens libre.
Voilà, où tu redeviens une espèce de neutre.
Oui,
un regard
mais surtout
neutre.
Libre. C'est-à-dire que tu gagnes ta liberté.
Ouais,
ta
d'accord.
liberté, elle appartient à ça,
ouais.
à ta joie,
ouais.
à ton bonheur.
Ouais.
Elle n'appartient pas à ta tristesse et à ta colère.
Ouais, mais le chemin pour en arriver là,
ah ben
il est propre à chacun.
Il est propre à chacun, mais il y
des
en a
fois, qui... ça va être nécessaire de passer par un procès. Tu vois, il y a des gens, ils vont avoir besoin de ça.
Mais bon, je pense pas comme ça. Après, on pense pas tous pareil.
Ouais.
C'est une opinion. Je suis pas sur cette opinion-là. Bah,
parce que le regard de la société, quand même, ça compte. Dans ta construction.
Oui, ça compte. Ça compte,
ouais,
tu crois que ça compte ? Qu'est-ce qui compte ? Ça compte quand tu veux être une star, mais quand tu veux être un homme normal...
Ah ouais ?
Bon, ça compte quoi ? Ce qui compte, c'est toi au fond, comment tu te ressens et comment tu te positionnes. Ce qui compte, c'est le bien que tu fais aux autres qui sont à côté de toi. C'est pas le reste, on s'en fout. Quoi.
Bah, en fait, tu vois, quand t'as vécu un truc petit et qu'on t'a pas expliqué que ce que t'avais vécu, c'était pas juste publiquement...
Ouais.
C'est-à-dire socialement,
oui,
tu vois,
mais
ça crée un problème.
Ça crée un problème parce que tu n'es pas considéré.
Voilà.
Et donc, c'est la considération de la chose qui est gênante.
La considération de la société sur le malheur que tu as vécu.
Mais par exemple, si moi, il n'y avait pas eu de procès, ça aurait été terrible.
Mais voilà.
Je suis d'accord avec toi. Mais ça n'a pas de rapport avec la colère.
Je suis d'accord.
Ça, c'est au niveau de la gestion des faits.
Ouais.
Et c'est...
Je vois ce que tu veux dire.
Pour moi, c'est quelque chose d'à côté.
C'est
mais
hyper
bon,
intéressant.
Voilà, c'est quelque chose d'à côté. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si on ne dit pas, voilà, tu as subi ça, tu as été victime et tout ça. Alors, par exemple, sur le statut de victime, on pourrait parler des heures.
Ah, bah,
parce
des
que
heures.
Moi, ça a été le cas de ma psychologue EMDR et de l'EMDR que j'ai faite par rapport à mon fils.
Ouais.
Je veux dire, j'ai été victime.
Ouais.
Au fond.
Bah,
et il faut admettre qu'on est victime. C'est-à-dire que mon fils meurt. Et il s'est suicidé et donc je suis une victime. Alors c'est pas moi qui est mort, hein, soyons bien d'accord, ça, on va garder notre stoïcisme classique. C'est pas moi qui ne vais pas vivre la vie qu'il ne vivra pas. Mais par contre, c'est un choc, c'est un trauma. Donc je suis victime, donc je me positionne comme victime pour me soigner.
Ouais.
Voilà. Et à partir de là, j'arrive à avancer. Mais si je pars pas comme ça, c'est compliqué.
Ouais.
Je pense que pour soigner, c'est très compliqué. Et pour sortir du truc, c'est très compliqué.
Ouais.
Donc, il faut changer de statut.
T'as accepté tout de suite, toi, de te voir
oui.
comme ça ? Ouais.
Parce que peut-être l'entraînement.
Ouais,
pardon, mais un peu d'entraînement, quoi. Voilà.
Ouais.
Fait que tu comprends de suite les mécanismes qui vont te permettre d'accepter certaines choses ou de ne pas les accepter.
Ouais.
Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut... Voilà. Faut se dire bon voilà comment je peux me positionner, comment je dois raisonner
ouais.
ou me mettre dans pour pouvoir accepter les choses, gérer ma culpabilité parce qu'elle est très forte et,
ouais.
et ensuite encaisser les chocs, le choc voilà, encaisser le choc, comprendre sachant que tu ne comprendras jamais
ouais.
voilà
ouais mais ça c'est
restera.
Horrible aussi, c'est hyper dur.
Non c'est pas horrible,
non, mais, je veux dire
pas...
attends je recontextualise. Accepter
accepter de pas savoir, c'est accepter
c'est
de
très,
pas
très
tout
dur.
Maîtriser. Oui, non, mais c'est pas c'est accepter de pas tout maîtriser et c'est très agréable quand tu acceptes dans ta vie de pas tout maîtriser, de pas être freak control et de pas tout pouvoir gérer. Ça,
c'est hyper difficile quand
t'as
été traumatisé.
Non, mais quoi ?
Ouais.
Non, mais non, si. C'est très agréable. Ça te rend libre.
Mais je suis d'accord.
Quand
mais
tu non. dis, non, mais ça, si tu dis ça dépend pas de moi, ben voilà, c'est tout. Ça dépend pas de toi.
Attends, je trouve que pas. Psychologiquement, non, il faut mentalement,
que... c'est horrible de tout vouloir maîtriser. C'est terrible. Moi, parfois, ça m'est arrivé. Ça m'a rendu malheureux.
Ça m'a rendu hyper malheureux. Mais ça arrive à tout le monde. C'est le grand mal de notre époque.
Oui, mais ça peut te rendre que malheureux.
Oui, parce que tu as fait le tour.
Les gens qui veulent, qui sont freak control, qui sont angoissés pour si, leurs enfants, leurs trucs et tout. Et qu'est-ce que tu dis à leur fils ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu sors là avec un tel ? Pourquoi ? Mais c'est pas possible.
C'est l'enfer.
C'est la misère.
Ouais, je suis d'accord.
C'est la misère quotidienne
ouais.
que tu vis
au
là.
Quotidien.
Tu te bouffes le foie, là. Ça
ouais.
fait ce que disait Hippocrate, la bile noire qui se répand en toi, là.
Je suis assez d'accord.
Qui te rend colérique, tu vois.
D'accord.
Non, c'est horrible. Ça rend malade, hein. C'est ça qui te fait
malade.
Faire de la psychose et qui rend psychotique, je veux dire. Non.
Oui, bon, mais c'est pas parce qu'on sait ça que c'est plus facile de lâcher prise.
Ah si.
Ah non.
Bah, si,
c'est là où tu vois, il y a une grande différence entre le psychologique... Et le...
L'acquis.
L'organique.
Ouais, non, mais ce que ta culture... on est parti à l'origine sur comment, ce qu'on nous, dans l'amour, ce qu'on nous enseigne,
oui.
comment on établit nos rapports amoureux, fait qu'on n'en sort jamais. Fait qu'on reproduit
on
des
reproduit.
Schémas. Qu'on est là à être toujours
Parce
les mêmes.
Parce qu'en fait, on projette quelque chose qui est de l'ordre de son histoire personnelle
Exactement.
Sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec
besoin,
cette histoire
et de son besoin
voilà
et
c'est là
besoin,
où tu parles du crochet qui vient attraper l'autre qui,
ouais.
qui crée une boucle
ouais.
c'est ça
et puis surtout le
on le tient pour responsable
Exactement.
Et on crée notre enfer
Exactement. C'est compliqué de
et l'autre
changer
il comprend
de...
rien du
oui,
tout
oui mais c'est surtout aussi compliqué
et
de
on
changer...
est deux à faire ça
ouais.
c'est l'enfer
mais changer de logiciel c'est pas facile mais en même temps c'est tout un travail
C'est un
changer le logiciel dans le rapport à l'autre, dans le rapport amoureux. Alors, c'est sûr qu'à 50 ans, c'est plus difficile. Quoique, je ne sais pas si c'est à 50 ans, ce n'est pas plus facile.
Alors là-dessus,
qu'à
30 je sais pas.
Ou quoi. Parce que
moi, je pense qu'il n'y a jamais trop tard.
Tu ne réfléchis pas, tu fonces, tu veux faire une famille, tout ça.
Mais c'est là où je trouve que l'inconscient parle beaucoup.
Voilà. Bah oui, bah forcément. Là, tu es dans la reproduction de.
Ah, bah là,
chose,
tu ne réfléchis pas.
Mais à 50, tu te poses, tu réfléchis, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait là
ouais.
Qu'est-ce que j'ai voulu faire
ouais.
Où je voulais aller
Même 40
C'était quoi
ans.
L'idée tu vois.
Ouais.
Ouais, à tous les âges, hein, tu peux te poser la question. Quoi.
Et ça dépend des...
Quel est ce rapport que j'ai à l'autre comment je...
Et
Quelle
même transgénérationnel. Parce que là, c'est là où tu prends conscience de ce qui se transmet de génération en génération.
Ah bah oui,
tu te poses
deux
minutes, tu te dis, attends, la grand-mère, la mère, machin, et tout.
Sûr.
Ah mais non,
ouais.
moi, j'ai pas envie que ma fille aussi.
Ouais.
Et en fait, si je fais rien, eh ben, ça va continuer.
Ouais.
Et même là, il y a des études qui sont sorties en disant que les traumatismes qui n'étaient pas forcément dits, hein, mais vécus, gardés sous silence, étaient impactés transmis dans l'ADN, et que ça, c'était encore plus fort et plus visible chez les deuxièmes générations après le trauma.
Ah oui, bah oui.
C'est-à-dire que de la grand-mère à la petite-fille, la petite-fille aura une marque dans l'ADN plus forte que la grand-mère, alors que c'est la grand-mère qui l'aurait vécu.
Tout à fait.
Et ça, c'est scientifique, c'est
alors,
prouvé.
Alors ça, c'est scientifique, et c'est ce que les philosophes stoïciens appellent l'âme.
Ah.
Voilà, c'est la transmission des choses dans l'âme. C'est
d'accord.
Dans le dernier, ouvrage de Cicéron.
Sur le bonheur.
Sur le bonheur, c'est cette transmission. On ne comprend pas pourquoi un tel a les mêmes capacités ou les mêmes... truc problème que qu'un aïeul ou quoi et voilà et en fait ils comprennent pas comment se transmettent certaines choses bon à l'époque ils connaissent pas l'ADN quoi hein. Mais ils se posent déjà la question de savoir et ils disent c'est l'âme
donc ils ont identifié ça comme ça
ouais eux ils disent c'est l'âme l'âme se transmet il y a des choses qui se transmettent dans les âmes et en fait les âmes sautent de corps en corps de génération en génération
ah ouais
voilà et c'est assez rigolo hein. Attention, dans les Esculapiens, dans le livre 4, quand il dit guérir des passions, il ne parle pas de la passion comme on l'entend nous. Hein.
Ça, c'est important que tu en parles.
Ouais,
c'est
pas du
les
tout
passions,
la passion. C'est les passions, c'est ce qu'on vit, la façon, c'est le social, je dirais. Voilà. C'est ce dont on a besoin, je veux dire. C'est, voilà. C'est pas du tout la passion, le sexe. Ou
ouais,
autre,
ouais, ouais,
voilà,
non, c'est plus
ça,
les.
Voilà. C'est pas la passion du jeu ou quoi, voilà.
C'est quoi ? C'est les domaines
des
émotions ?
D'être mesuré, la passion, ça peut être la nourriture, tout ça et tout. Voilà, c'est-à-dire d'être mesuré dans ce qu'on fait.
Ok.
d'être mesuré dans ce qu'on mange, dans comment on vit, dans ce qu'on fait, dans l'écologie, dans l'eau qu'on consomme, tout ça et tout, quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que ça a été traduit, c'est comme
l'impact
un acte passionnel. Voilà, c'est comme un acte passionnel, mais en fait, ce n'est pas un acte passionnel. C'est voilà.
Ok.
C'est les mots, la traduction
latine. Non, mais
c'est
important,
c'est voilà.
important. Ce
n'est pas du tout la passion. Voilà. On ne guérit pas. Les stoïciens ne sont pas contre le bonheur ni le plaisir. Souvent, on a dit
oui,
les
voilà.
stoïciens sont
ouais.
stoïques, ils sont contre le bonheur. C'est totalement faux. Les stoïciens sont pour le bonheur, ils sont là pour construire leur bonheur. Point barre. Ils ne sont pas du tout là
ouais.
pour être sans bonheur. Ce n'est pas les épicuriens contre les stoïciens, pas du tout. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir. Le stoïcisme, c'est une façon de voir les choses. Après,
alors,
on peut être heureux, on peut avoir du bonheur. Enfin, voilà. En plus, les stoïciens n'étaient pas forcément fidèles. Ils avaient plusieurs femmes. Enfin, les
ouais,
femmes avaient
ouais,
plusieurs
ouais.
hommes. Enfin, voilà, ce n'était pas du tout quelque chose de complètement... Voilà.
Je lis un extrait pour justement que par rapport à ce que tu dis. Donc, c'est dans le livre... Le livre 4, justement, on y vient sur les passions. En même temps, le sage dirige en tout sens des regards si pénétrants qu'il aperçoit toujours un endroit où s'installer pour y mener une vie exempte de peine et d'angoisse. En sorte que, quels que soient les hasards ou la fortune l'engage, il saura s'y adapter et y trouver le repos. En agissant ainsi, on sera exempte non seulement de chagrin, mais aussi de toutes les autres passions. Or, ce qui fait la vie heureuse dans son absolue perfection, c'est une âme exempte de passion. Tandis que si une agitation se produit, si on s'écarte des principes fixes et intangibles de la raison, on ne perd pas seulement son équilibre moral, mais encore sa santé. Voilà, c'est court, mais c'est hyper profond, et c'est un peu ce que tu disais, quoi. Sur la colère, ça...
Oui,
ça
exagérer
mène à la
de
malade.
Rien. C'est-à-dire, ce qu'il appelle les passions, en fait, c'est les émotions.
C'est ça.
Voilà.
S'emporter, la colère,
exactement. Ce
la
qu'il appelle
tristesse,
les
la
passions,
peur.
C'est toutes nos émotions. C'est tout ça qui nous déborde et qui, en fait, nous rend malades.
C'est pour ça que la bipolarité,
voilà.
c'est compliqué,
oui.
du coup.
La bipolarité,
on le comprend
oui.
un peu mieux, quoi.
Oui. Enfin...
Je dis ça parce que la prochaine invitée, elle, c'est Christina, elle parle de sa...
Oui.
Elle a fait un spectacle de théâtre
oui.
sur la bipolarité de sa mère. Elle a grandi
oui.
avec une mère bipolaire.
Oui, mais je ne crois pas à la bipolarité.
Tu ne crois pas ?
Non.
C'est super intéressant parce qu'on non plus.
En fait, moi, je pense que la bipolarité, c'est un terme moderne en psychiatrie. Avant, ça s'appelait la psychose maniaco-dépressive.
Oui.
Maintenant, on appelle ça bipolaire. On met tout le monde, dès qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, on dit qu'il est bipolaire.
Ouais, non, pas non. Non, mais attends, il y a des. Non,
y a,
non, mais attends.
Tu entends ce mot-là,
y a
tous
des...
les points de rue,
non,
ah,
non,
les
mais...
bipolaires. Et
écoute,
ils vont tous à l'hôpital. Alors, c'est une manière très douce de dire
père.
Tiens, c'est un
non, non,
schizophrène.
Non, non, diagnostic.
Non, mais c'est même les diagnostics bipolaires, ça pas de.
Bah, écoute, moi j'ai grandi avec une mère qui avait cette fluctuation d'émotions. On va enlever le mot bipolaire.
Parce que, non, mais.
C'est une fluctuation d'émotions. Où les gens sont incapables de résister à ça. C'est-à-dire
oui.
qu'ils sont emportés.
Oui.
Et ils emmènent tout le monde dans leur délire.
C'est une psychose.
C'est une psychose.
C'est une psychose.
Après, tu mets ce que tu veux.
Non, mais bipolaire, c'est un mot un peu doux pour dire...
Ah, c'est pas doux, hein.
Non, mais bien sûr que c'est, bon, c'est pas doux. Parce
quand
que
tu le connais.
Oui, voilà, quand tu le connais, c'est pas doux.
C'est pas
mais
du tout
un poème. Mais bipolaire,
ça
veut dire il est un peu comme ça, puis après, il est un peu comme ça, puis tu vois, alors maintenant, il y a... Bon. Moi, j'ai un cousin qui est bipolaire, il dit « Ah, ben j'ai fait ça, oui, mais je suis bipolaire. »
Ouais, non, mais non. Mais non, mais moi, j'ai une amie aussi qui est bipolaire. Je peux dire qu'elle elle sauterait de son siège si elle, m'entendait par, si elle nous
ouais.
entendait parler
ouais,
de
ouais,
ça
non,
comme
c'est
ça.
Sûr, c'est sûr.
Non, non, c'est... Bon. c'est enfin, on va mettre ça de côté.
Ouais,
mais
tout à fait.
Je trouve ça intéressant, justement, de revenir sur cette histoire de positionnement. Et je suis assez d'accord avec toi sur comment on fait pour ne pas se faire emporter par nos émotions.
Donc, c'est guérir... Le livre
donc,
4,
être sage.
Guérir des passions, guérir
devenir
de ses
sage.
Émotions. Devenir sage.
Voilà.
Et puis surtout...
C'est ça, le programme.
Réfléchir.
Oui,
se détacher ou réfléchir, c'est-à-dire tiens, je suis en colère, pourquoi je suis en colère?
Oui, mais
ben,
pour réfléchir, il faut se détacher. Il faut tu vois, pour pas être, pour, en fait, en gros, quand tu es dans l'émotion, tu vis l'émotion, donc t'es incapable de t'observer et de réfléchir.
Oui, t'es incapable de il faut. Oui.
C'est en ça qu'il faut prendre ce petit recul, ce temps, cette distance par rapport à soi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Cette gymnastique de l'âme ou de l'esprit ou du mental, ou je ne sais pas comment le dire, cette gymnastique de se dire, attends, prends du recul, prends la hauteur. Là, j'ai... Comment je me ressens? Comment je suis? Tu vois, cette analyse, cette observation, ce regard, en fait, neutre sur soi-même, sur ses émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école.
Non, bah, moi, on ne me l'a pas appris à l'école. Hein. Moi, c'est la vie qui me l'a fait... Enfin, je l'ai subi.
Voilà, donc, c'est soit tu prends ce chemin-là, soit tu deviens fou.
Bah oui, parce que sinon, tu es en galère, quoi.
Voilà.
Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu trouves des solutions, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que tu trouves une façon de réfléchir aux choses pour pouvoir vivre avec.
C'est ça.
C'est ça le but. C'est de vivre avec les choses, parce que tu ne vas pas les enlever, hein. Je veux dire, tu vis avec la peine et tu vis avec, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a une cicatrice.
Ouais.
Elle est dans ton cœur, ça a marqué, c'est une cicatrice. Il ne faut pas que... Enfin, spécialiste de la Kabbale disait le sang afflue vers la plaie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une plaie, le sang, il coule, quoi. Voilà, donc la plaie, il faut un peu la refermer, elle est là, il faut la cicatriser, quoi. Voilà. Et donc la plaie, la cicatrice, elle est là, voilà. Mais il faut pas que le, il faut un petit peu la fermer, quoi. Voilà. Pour ça, il faut un peu réfléchir, il faut un peu, raisonner, quoi.
Oui.
La raison, Pascal, Kant.
Allez. Bon, on va te réinviter, Maxime.
Non.
On est d'accord. On est d'accord.
La raison. Non, mais ce qui est intéressant sur la raison, c'est que Saint Augustin. Donc,
Saint-Augustin, merci, on va finir là-dessus.
Voilà, qui est le pape, c'est pas le pape, parce que là, ils vont voter, qui est quand même celui qui a mis en place un petit peu les fondements de l'Église catholique.
Complètement.
Voilà, et s'est converti à cause de Cicéron.
Oui.
Il s'est converti en lisant Cicéron.
C'est fou, ça.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est fou, parce que ce qui est fou, c'est que Cicéron était connu pour être avocat. Sinon, il est connu pour ses écrits sur la République, fonctionnement. Mais il n'est pas connu pour sa philosophie.
Ouais.
Sauf ses Tusculanes.
Ouais, c'est vrai. Quand j'ai enquêté un petit peu.
Qui sortent de nulle part.
C'est vrai.
Qui est un truc comme tombé du ciel.
Ouais.
Où, en fait, dedans, il y a une croyance.
C'est vrai.
C'est un livre de croyance.
Il y a la foi.
Et ce qui est important dans la religion, c'est de croire. Ce qui est important dans la vie, c'est de croire. Croire que les choses, elles peuvent aller mieux. Croire que les choses, croire qu'on va y arriver finalement.
Ah bah oui.
Et qu'on va arriver à se dépasser, à se sortir de ce bordel. Et
c'est pareil, c'est prouvé dans les neurosciences. C'est-à-dire, ton cerveau ne peut pas projeter un futur meilleur, il n'y aura pas de futur meilleur.
Exactement. Mais c'est ce qui me gêne dans le discours d'aujourd'hui, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de tout le monde, de dire « Ah, maintenant c'est foutu. Ah, ça va pas, ça va mal, de toute façon on est foutu. » Non, on n'est pas foutu.
Non.
On est juste, on avance, quoi.
Ouais.
Voilà, et puis on va s'arranger, puis ça va aller mieux, et puis ça va aller bien, quoi.
Ouais.
Je veux dire, mais il faut arrêter de dire... croire, c'est important. Et je trouve ce qui est intéressant, moi, dans l'Église, ou dans le judaïsme, ou dans l'islamisme, c'est de croire.
La foi ?
C'est la foi.
Bien
c'est
sûr.
De dire, voilà, après, qu'il y ait un Dieu qui existe ou pas, on s'en fout, en fait.
Oui.
Ce qu'il faut,
en fait,
c'est croire.
C'est un peu ce que disait Lewis Carroll. Si le monde n'a aucun sens, pourquoi ne pas se trouver un sens Pourquoi ne pas l'inventer? Et ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que dans les moments difficiles, je me suis dit, en fait, si ça n'a aucun sens, autant trouver un sens qui m'arrange.
Tout à fait.
Ça sera un peu plus agréable à vivre, comme tu l'as dit.
Tout à fait.
Bon, je propose de finir là-dessus. Merci beaucoup, Maxime. Je pense que tu vas quand même revenir bientôt.
Bon.
Si. Bon. Allez.
On trouvera un autre sujet, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de MDR. On n'a pas parlé
Alfred Adler et tout. Donc, tu reviendras.
On reviendra. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.